Enfin, je sais pas vous, mais en Israël, ils en sont là-bas à l'autre parce que ils ont profité qu'on était occupé le deuxième jour de
Ouais.
Shavuot et qu'eux ne l'étaient pas pour lire Parshat Massot. Alors, on va leur courir derrière.
C'est pas très longtemps.
Non. Il y aura un doublon, on va pouvoir s'arranger. Alors, on est dans Parshat Nassau. Bon, c'est d'abord encore un recensement. Cette fois-ci, dans la tribu de Lévi. Et on donne aussi, finalement, dans ce recensement, probablement que les gens recevaient effectivement la pekouda, c'est-à-dire la tâche qui était la leur, la fonction qui était la leur. Par exemple, dans le transport du Mishkan, quand on démontait le Mishkan, il fallait le remonter, et le démonter, le transporter, le remonter. Et donc, c'était par famille à l'intérieur des Lévi'im. Il y avait une répartition de qui transporte, démonte et transporte quoi. Alors, dans le texte, au chapitre 5, et au verset 5, il y avait Vaïdaber, bonsoir. Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts, Daber el Bene Israël, Ishoïcha, Yasu Mikol Khatata Adam, Limol Maal Bashem, Ve'ashma Anefeshaï, etc. En fait, effectivement, on parle de quelqu'un, un homme, une femme, qui fait une faute. Faute contre Hachem. Alors, c'est intéressant, juste ce point-là que je voulais faire remarquer, c'est que quand on parle de cette faute, pas secrète, en fait, on dit Limol Maal Bashem. C'est-à-dire, il est Moël Bachem. La Meïla, c'est un terme qui parle, qui décrit dans le Yam. Quelqu'un que je vais faire entrer, c'est qui Yam qu'elle est. Voilà. Alors, oui, voilà. Bonsoir, Yam qu'elle est. Et c'est une Meïla. Meïla, c'est du vol, mais quand on vole, quelque chose qui appartient à Egdesh. Donc, si vous voulez, c'est un vol aggravé, parce qu'on a pris quelque chose qui appartient à Egdesh. Et donc, là, il suffira pas de restituer la valeur, etc. Il va y avoir un corban à amener. Donc, tout de suite, bien entendu, ça a une dimension de profanation, en quelque sorte, dans la Meïla. Et là, c'est la Meïla par rapport à un objet qui appartient à Ekdesh et dont on s'est permis de l'utiliser pour soi-même. Alors, il y a une procédure. C'est pas le sujet, je voulais juste pas dire qu'il y a cette première occurrence de la notion de Meïla ici dans cette paracha. Parce que juste après, on va parler d'une autre sorte de Meïla. Le paragraphe d'après, c'est toujours au chapitre 5, mais au verset Yud Aleph, Yud
La notion de Meïla, elle apparaît pour la première fois dans la Torah ici.
Bet. Je ne suis pas sûr que ce soit la première fois, mais elle a peut-être la première fois, mais c'est pas tout à fait sûr. Je ne peux pas vérifier.
Il y a un Ramban sur le. À l'introduction du Sefer, le Ramban souvent il fait
Oui, mais c'est ça.
une synthèse des voix qui apparaissent.
Voilà.
Ramban, il parle, le premier Ramban de la paracha du Sefer.
Alors, dans cette paracha qu'on a déjà lue, il y a une espèce de. Il y a quelque chose qui va être utilisé dans la paracha d'après. Parce que quand quelqu'un a fait la faute, le pasouk qui dit Veitvadou et Ratatam Asher Asou, et ils vont confesser la faute qu'ils ont faite. Veishiv et Hashamo Berosho, Yosef Alav, il va falloir ajouter un cinquième 20% à ce qui a été volé et apporter ce corban qui est un corban Hacham. Benatan la chair Hacham l'eau. Évidemment, il faudra le donner à qui de droit. Et si, effectivement, la personne, en la ish goel, le le volet, il est plus là, il n'y a personne qui puisse le représenter. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de. Y a pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va le redonner, on va le donner au Kohanim. Et en passant, on nous dit le Kol Trouma, le Kol Kotché Bnei Israël, Achaya Krivou la Kohen, Loïe. Et effectivement, on nous dit ici que toute portion de quoi que ce soit qui a de la kdoucha, que les Bnei Israël apportent au Cohen, c'est à lui, ça lui appartient. Loïe. Et ensuite, donc la paracha, elle commence de nouveau comme un peu comme la précédente. Rabbi Ben Israël, Ver Marta Lehem, Ish, Ish, Kitiste Ishto, Uma'ala Bo Ma'al. On parle au verset Yudbet, 5-12, on parle de Me'ila de nouveau, mais cette fois-ci, la Me'ila, et donc c'est, elle est utilisée pour quelque chose qui se joue entre un homme et sa femme. Donc on parle ici d'un problème d'adultère ou d'adultère vraiment ou de soupçon d'adultère justifié ou pas. Donc d'abord on présente. La Torah elle commence par présenter un homme dont la femme a dévié. Tisté qui va donner Sota, bon, bien on va voir, c'est dévié. La voie normale dans un couple, c'est que la femme et l'homme ont ensemble une relation de confiance. Là, la femme, elle a dévié et donc, en fait, le mari n'a plus confiance. Donc, on décrit une femme qui aurait eu un rapport adultérin. Mais le mari n'en sait rien, pas au courant. Glystera et s'est cachée, elle s'est cachée et elle est devenue impure, ça veut dire il y a eu consommation, il y a eu un rapport à l'utérin, mais Ved-en-Ba, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin sur le fait qu'il ait eu adultère. Et en tout cas, c'est pas un cas de figure où elle aurait été contrainte de violer, où on l'aurait obligée d'avoir ce rapport adultérin. C'est étrange parce qu'on parle d'une situation standard, une femme qui commet un adultère. Qu'est-ce qui se passe là? Oui, elle commet un adultère et le mari n'est pas au courant. Et alors, on parle de quoi maintenant? On dit Ve'avar alav ruach kina, et ce ish dont on a parlé, ce qui est le mari, il y a un vent de jalousie qui passe sur lui et il va avertir sa femme et vehi lo nitmea. Ah non, j'ai sauté, excusez-moi. Il a averti sa femme. Vehi nitmea. Et en fait, elle est adultère. Lui, quand on dit qu'il l'a averti, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je t'interdis de t'isoler avec Toto. Et bon, elle a déjà une relation adultérine avec ce Toto. Donc ce vent de jalousie qui est venu sur lui, ça veut dire qu'il a perçu quelque chose. Il ne sait pas qu'il y a eu un adultère, mais il a perçu quelque chose dans l'ambiance, dans la façon dont ses relations continuaient de se dérouler avec sa femme, et il lui a donné cet avertissement. Disons qu'il a donné cet avertissement devant témoin. On va faciliter les choses. Il y a deux témoins qui ont entendu que Monsieur Machin a dit à Madame Machin, je t'interdis de t'isoler avec Toto. Ou bien, il a Torah, Ve'avar alav ruach, ou bien alors, O avar alav ruach kina, ve'kineh et ishto, ve'hi lo nitmea. Mais peut-être qu'il a eu un vent de jalousie, il a averti sa femme, mais la femme, elle a jamais rien fait de mal. Il est un peu parano. Donc, on parle des deux situations. Mais du fait, en lui disant, je t'interdis de t'isoler avec Toto, en fait, il met le doigt dans un engrenage. Alors, le texte ici chez nous, il dit, il saute les épisodes, alors je vais vous raconter l'histoire pour qu'on comprenne. C'est-à-dire, ce qui c'est, donc lui, il le lui a interdit. Et la femme, elle a deux possibilités. Enfin, elle peut agir de deux manières. Ou bien, effectivement, elle est adultère, et donc elle va continuer éventuellement de s'isoler avec ce Toto. Mais, de toute manière, personne ne sait ce qui s'est passé pendant cet isolement. C'est-à-dire, on a des témoins qu'elle s'est isolée, qui sont isolés. Il y a des gens qui ont vu, elle est entrée dans une maison, il n'y avait personne dans la maison, ils ont fermé la porte. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Ils sont restés un certain temps, on verra après. Voilà. Et elle, donc, elle a Elle n'a pas respecté l'interdit que son mari avait mis sur elle. Mais elle peut très bien se dire, moi, de quel droit il me soupçonne, c'est un scandale, moi je peux m'isoler avec ce Toto, il va rien se passer. Alors, c'est vrai qu'une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un homme qui n'est pas son mari. Mais si une femme s'isole avec quelqu'un qui n'est pas son mari, elle ne devient pas pour autant interdite à son mari. Bon, parce qu'il ne s'est rien passé, éventuellement. Donc, normalement, elle ne devient pas interdite. Mais que ce soit parce que elle ne tient pas compte de ce qu'il dit, ou bien qu'elle ne tient pas compte parce qu'elle trouve scandaleux qu'il la soupçonne, etc., qu'elle va lui montrer qu'elle peut s'isoler, il ne va rien se passer. De toute manière, elle a fait quelque chose qui en soi est interdit. Mais cette chose-là, parce que lui, il a ouvert, il a mis, je vous dis, le doigt dans l'engrenage, mais c'est elle qui a déclenché la machine. Elle, en faisant, en s'isolant, elle déclenche une machine. Une procédure, ça s'appelle. Procédure qui est déclenchée. Et cette procédure, c'est la procédure de ce qu'on appelle la sota. C'est une paracha, la paracha qu'on est en train de lire ici. Ça a aussi donné lieu à une gemara. Il y a toute une gemara qui s'appelle sota. Et on parlera justement de cette gemara parce que ça ouvre éventuellement la possibilité d'un autre regard sur la situation.
Warkina de Kiné, c'est
C'est
le
pas la même chose parce que Kina, c'est
même
avec
chose.
un Aleph, mais Kiné, c'est un avertissement. Et alors, si maintenant on s'en tient au texte, le verset suivant, il dit Vehivi ha'ish et ishto el a kohen. L'homme va amener sa femme chez le kohen. Qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où il y a des témoins que cette femme s'est isolée avec ce toto, le couple en question n'a plus le droit de vivre maritalement. Ils n'ont pas divorcé, mais a priori, ils vont devoir divorcer. Le mari en question, il amène sa femme au tribunal. Au tribunal, on dit, mais ça, c'est que ça relève du Cohen. Et bien, le Cohen en question, c'est un Cohen qui est à Yerushalayim au Beth Amikdash. Donc, quand on dit, il va l'amener au Cohen, il y a eu une procédure d'abord de tribunaux et tout ça, donc la Torah ne parle pas. Mais ensuite, il faut qu'il voyage. Disons que ça s'est passé à Tzfat. Il va falloir qu'il voyage à Yerushalayim et au Beth Amikdash et qu'ils ont un rendez-vous avec un Kohen et on amène la femme devant le Kohen. Et maintenant, elle. Donc l'homme amène sa femme au Cohen. Alors il faut que vous sachiez que dans toute cette procédure, la femme, elle peut à tout moment dire, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas, je ne joue pas ce jeu-là, je préfère divorcer. Donc elle s'en va, elle va divorcer, elle va perdre la ktouba parce que c'est elle qui décide de divorcer. Donc, elle va perdre le montant de la ktouba. Elle aura dit, il va lui donner le guet. Il est obligé de donner le guet. Lui aussi, il peut très bien dire, finalement, je donne le guet. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas dire, ben, finalement, quoi qu'il en soit, je lui pardonne, etc. On continue la vie conjugale. Ça n'existe pas. Alpi HaTorah, si une femme est adultère, Un mari n'a pas le droit de continuer de vivre avec sa femme, il est obligé de divorcer. Maintenant, ici, elle n'est pas vraiment adultère. On n'en sait rien. Alors, il y a toute une procédure assez longue et assez et très désagréable pour la femme. Alors, ça commence par le fait que le mari, il va apporter un corban pour sa femme. C'est très étrange. Ce corban, c'est un corban végétal, c'est-à-dire c'est une crêpe, ouais. Une mincha. C'est une mincha, c'est en rapport avec ce qu'on vient de vivre il n'y a pas si longtemps. Cette mincha, elle est en orge. C'est de l'orge. Avec la connotation que l'orge, c'est une nourriture, la nourriture animale. Et donc, elle apporte, c'est lui qui l'amène, il l'amène pour sa femme. Il apporte une mincha. Il va, il amène cette mincha, il la donne au Cohen. Donc, on lit le texte, Vevi Aish et Ishto el Cohen, Vevi et Korbana, c'est-à-dire lui, il amène son Korbana, elle, Korbana, Aleha, pour elle. Alors, voilà la formule de du Korban. Asirita Efa, c'est un dixième de Efa. Kemar Seorim, de farine d'orge. Et quand on apporte une mincha, il y a toutes sortes de degrés de mincha, si on peut parler comme ça. Il y a des menachot où on ajoute un peu d'huile ou beaucoup d'huile. Donc, il y a des menachot standards et il y a des menachot tunisiennes. Et puis, sur certaines menachot, on ajoute aussi de l'encens. Là, sur celle-là, on met rien. Elle est sèche. Alors, comme on dit, loiten alav levona, loitsokala, on ne versera pas d'huile, on ne va pas poser non plus de saupoudrer de levona, d'encens. Pourquoi? Ki minchat knaoti? Parce que c'est une mincha de jalousie. Ce n'est pas une belle mincha, c'est une mincha de zikaron, ça s'appelle une mincha de souvenir. Mazkeret Avon qui rappelle la faute. Ça rappelle la faute qui. Alors, on ne peut pas dire complètement que cette femme n'a a priori, éventuellement, n'a fait aucune faute, parce que même si il n'y a pas eu d'adultère, elle a fait une faute en se isolant, parce que c'était déjà interdit sans l'interdit du mari, c'était déjà en soi interdit. Mais c'est devenu gravos. Parce que le mari a interdit. Veikrivota à Cohen, et donc le Cohen va approcher cette mincha, il va la rapprocher en balance. Veemida l'ifne Hashem, et il va, alors on a changé de sujet, et il va faire se tenir debout cette femme devant Hachem. Bon, quelque part, elle est presque un objet de Corban, quoi. C'est comme si on était en train de l'approcher en Corban elle-même. Vikrivota à Cohen et il l'a mis, donc, comme on a vu, l'Ifne Hachem. Et alors, durant toute cette procédure, on va essayer de dissuader la femme de continuer la procédure. Parce que cette procédure, elle va comporter le moment très important, que cette femme, elle va devoir boire de l'eau dans laquelle on aura effacé le nom d'Hachem. C'est-à-dire, cette paracha de la Sota, on l'a réécrit sur un parchemin. Et ce parchemin, on va le mettre dans l'eau, hein, dans l'eau, on en parlera, jusqu'à ce que l'encre de ce parchemin se dissolve dans l'eau. Et comme dans cette paracha, il y a le nom d'Hachem, donc on aura effacé le nom d'Hachem. Donc le grand problème, enfin la grande chose, c'est que Hachem accepte qu'on efface son nom, ce qu'on n'a absolument pas le droit de faire, tout ça pour sauver éventuellement ce couple. Le but de l'exercice, c'est éventuellement de sauver le couple. Alors, voilà maintenant la fabrication de cette eau, etc. Le Cohen va prendre même que de eaux sacrées. Il va mettre cette eau dans un clé en argile, dans un contenant, un verre en argile. Et on va prendre min ha'afar asher yiyeh bekarka ha'mishkan. Yikach ha'kohen venatan el ha'mayim. Et le Kohen va prendre un peu de la poussière du Mishkan ou du Beth Amikdash, bon, et il va mettre cette poussière dans l'eau qui se trouve dans ce kli qui est en argile. Voilà la poussière. Pour que vous sachiez, ça veut dire déjà, que au Beth Amikdash, le Beth Amikdash, il était complètement dallé. Dalle qui était fixée au sol. Il y avait une dalle qui n'était pas fixée. Et cette dalle-là, on va la soulever et le Cohen, il va prendre de la poussière qui est sous la dalle, c'est-à-dire de la terre, quoi, qui est sous le Beth Amikdash, quoi. Mikarka Mishkan, sur le sol du Mishkan. Alors, c'est une dalle très importante parce que la raison, enfin, le problème avec cette dalle-là, c'est que si un Kohen est sûr qu'il a un pied sur cette dalle-là, quand il fait la avoda n'est pas kasher. Parce que le Kohen, il doit avoir les pieds sur le sol. Toutes les dalles, elles sont scellées, donc le sol, c'est désormais les dalles. Et cette dalle-là, elle n'est pas scellée. Donc, le sol, c'est la terre qui est en dessous. Et la dalle, elle est une khatsitsa, hein, elle a un écran entre le pied et le sol. Donc, si quelqu'un se tient sur une telle dalle, la avoda n'est pas cachère. Comme il savait où elle était, donc personne n'allait se tenir les ailes. C'est pour dire qu'ils ont laissé une dalle pour cette paracha-là, qui probablement n'a jamais eu lieu d'ailleurs, mais bon. Bon. Et donc voilà, il a mis donc, on a un clé en argile, de l'eau et de la poussière. Et alors maintenant, la partie désagréable. La femme, elle est l'ifne Hachem. Et l'homme, le Kohen, va ou fera être roche à Isha. Et il va découvrir et dès il va para, c'est le même mot que paro. Pourquoi paro s'appelait paro? Paro, il est toujours échevelé. Donc la femme, ici, on la rend échevelée, c'est-à-dire que si elle a des tresses ou une queue de cheval, ou etc., on défait tout. On découvre d'abord, puis on défait tout. Donc elle a l'air d'une sorcière, quoi. Ensuite, on tire sur ses vêtements, ça déchire sa robe. Hein. Alors, comme on ne veut pas qu'elle se retrouve dénudée, alors on amène une ficelle pour tenir sa robe. Et donc, c'est très, très dégradant pour la femme. Ensuite, on la fait beaucoup marcher parce qu'on pense que si elle se fatigue, elle va plus facilement dire qu'elle ne veut pas continuer. On ne lui demande pas du tout d'avouer qu'elle est adultère. On peut simplement dire, moi j'ai peur de ça, je veux pas ça. Pas envie de passer une telle épreuve. N'y avait pas la foule, là, mais bon. Et donc, voilà, on maltraite en quelque sorte cette femme. Et maintenant, il lui met la mincha dans les mains, c'est-à-dire qu'elle oblige à tenir ses mains comme ça. Donc, ça va la fatiguer tout le temps. Tenir une mincha.
Si elle interrompt la procédure,
Elle?
si elle interrompt la procédure, comme dit, elle arrête,
Elle s'en va, ouais.
elle s'en va sans pouvoir, c'est un
Ou
divorce.
elle? Donc, le divorce.
Parce qu'il y a le cas de figure où lui, il est jaloux d'elle, il avance, c'est une invention. Le mari, il a une jalousie, il veut la.
C'est un parano, quoi.
Pardon? Donc dans ce cas-là, il peut arrêter.
Oui. Mais elle perd la couronne.
Ouais.
Parce que c'est elle qui décide de partir.
Parce qu'on aura pu arrêter la procédure, ça n'a pas d'application sur le
Ah non,
droit au
pas du
mariage.
tout. Ça dit rien du tout, en fait, sur ce qu'elle est. Elle peut dire, oui, je suis adultère. Ça, c'est son problème à elle de le dire. De toute manière, comme ça n'aura pas non plus de conséquences. Parce qu'on croit pas quelqu'un qui parle du mal de soi. S'il n'y a pas de témoin, on peut rien faire contre elle. Et à ce moment-là, et alors, ces eaux-là, l'eau avec la poussière, s'appelle Mais Hamarim Améharérim. Ce sont des eaux qu'on dit amères, qui sont Améharérim qui, Arour, c'est la Klala. C'est les eaux qui entraînent éventuellement une Klala. Et maintenant, le Cohen, il va faire jurer la femme. Il va lui dire, Imlosh Achavish Otar, si personne n'a eu de rapport avec toi, si tu n'as pas dévié, tu n'es pas devenu Tmea, alors que tu étais en fait marié, tu étais marié ou en tout cas Mehoreset, fiancé avec ton mari, alors Hinnaki, Naki ça veut dire propre, soit complètement blanchi, Amarim de par ces eaux-là, qui sont des mauvaises eaux, mais toi, comme tu veux, ces eaux-là, pour toi, elles auront absolument aucun effet négatif. Et si, au contraire, tu satites, ça veut dire tu as été adultère, tu es devenu impur, alors qu'Hachem te donne et que tu as eu un rapport avec quelqu'un d'autre que ton mari. Voilà. Alors, le Cohen, il va lui dire, tu vas jurer. Donc, le cas échéant, tu vas jurer que tu es innocent. Parce que si elle dit qu'elle est adultère, ben, la procédure s'arrête et le divorce, c'est tout. Et donc là, tu vas jurer que tu es innocente. Et tu vas jurer que si jamais ce n'est pas vrai ce que tu dis, alors tu acceptes des clalotes, tu acceptes des malédictions qui vont venir sur toi. Il faut que vous sachiez qu'en réalité, quand il y a une sanction sur quelqu'un, même la peine de mort hein, sur quelqu'un qui aurait tué, etc., on ne peut pas tuer les gens, on ne peut pas leur imposer quelque chose sans leur accord. Parce que, par exemple, pour tuer quelqu'un qui va tuer quelqu'un d'autre, qui a tué quelqu'un d'autre, A a tué B. Dans quel cas est-ce que A peut être condamné à mort? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse le condamner à mort? Il faut qu'il y ait eu deux témoins, deux juifs cachers. Ils ne sont pas en famille entre eux, pas en famille ni avec l'assassin ni avec la victime. Et que ces gens-là ont vu de leurs propres yeux, ils ont vu, et avant que ça ne se passe, ils aient averti l'assassin en lui disant, sache que ce que tu ferais là, c'est interdit, tu transgresses tel et tel interdit, et la sanction, ce sera ça. Il faut tout lui dire. Et il faut que monsieur veuille bien répondre, Almelatken c'est-à-dire, je suis tout à fait conscient de tout ça, et je le fais pour ça. Et donc, avec ça, il permet en quelque sorte que le cas échéant, on le tue. On lui a dit, tu vas mourir. Il dit, oui, d'accord, je suis prêt à mourir. Ça me... Et il faut qu'il agisse dans les secondes qui suivent l'avertissement. S'il agit 5 minutes plus tard, il dit, avertissement, j'ai coupé mon micro, il m'a dit averti. Voyez bien que, a priori, ces peines de mort, par exemple, c'est tout à fait académique. C'est impossible, tu ne trouveras jamais des assassins aussi de bonne volonté pour qu'on puisse les tuer. D'accord? Et donc, la grande question, c'est ce qui est étonnant, c'est que la Torah, non seulement elle nous parle de la peine de mort, mais elle nous dit qu'il y a quatre sortes de peines de mort alors qu'elles sont. La peine de mort est complètement académique. Pourquoi il y en a quatre, si de toute manière. Alors, probablement que les quatre peines de mort, elles servent à classifier le genre de faute. C'est-à-dire que une faute d'adultère, ou une faute de Shabbat, ou une faute d'assassinat, etc., ce n'est pas la même chose. Et le fait que la Torah ait prévu différentes sanctions, ça va nous permettre de remettre ensemble toutes les fautes qui sont sanctionnées de la même manière. Donc, on va trouver trouver éventuellement le dénominateur commun, et on va savoir exactement pourquoi on tue la personne le cas échéant. Parce que des fois, on ne sait pas très bien pourquoi on tue la personne. Des fois, il y a plusieurs éléments qui pourraient jouer. C'est pas toujours. De toute manière, ça va permettre de classifier. C'est pas la seule chose, mais en tout cas, ça va fonctionner comme ça. Et elle aussi, on lui demande de jurer, c'est-à-dire d'accepter dans son serment, elle accepte que les klalot lui viennent. Au cas où elle serait non seulement adultère, mais qu'elle est en train de mentir. Maintenant, elle jure qu'elle est innocente, qu'elle a. Et donc, elle va jurer tout ça. Et donc, on lui dit, tu sais que si tu es adultère, alors ces eaux-là, elles vont entrer en toi, elles vont faire gonfler, éclater ton ventre, les genoux vont céder, etc. Et alors,
Ah, une question. La notion donc là, elle est dans le terme Bijouat à Allah.
Allah, je vois ta Allah. Allah, c'est une clala.
C'est quoi cette notion de Bijouat à Allah? Est-ce que cette
Je vois
notion.
ta Allah, ça veut dire c'est une choix dans laquelle il y a une clala aussi. C'est une choix, et
Dur à faux.
si tu joues à faux, alors il y a un clala. Alors, C'est ce serment-là et tout ça, ça va être écrit. Et dans le verset Kaf Gimel, il dit, il va l'écrire sous forme d'un sefer, ou Macha El Me'amar. Et on va effacer sur les eaux, en trempant dans les eaux, dans ce cli avec la poussière. C'est ça qu'elle va boire. Donc, en d'autres termes, si vous voulez, c'est comme si elle va placer en elle le nom divin. En le buvant, elle met le nom divin. Et donc, ce nom divin, si elle est quelqu'un de bien, il va apporter de la bracha, de la bénédiction. Et sinon, elle va éclater. Ce nom divin, il ne peut pas être dans un corps qui est totalement impur. Et par contre, s'il est dans un corps pur, il apporte la bracha.
Le rage même sur place, il dit que la clala, c'est le fait que le vent va éclater.
Donc,
La
là,
clala,
oui, non, c'est,
c'est le fait que le vent va
oui, mais
éclater.
parce qu'on le lui a annoncé avant. C'est annoncé. Il lui dit, voilà ce qui va se passer si tu jures faux. Qu'effectivement, le ventre va éclater, les genoux vont céder, etc. Donc, c'est pour ça que dans la formulation de la Shvoa, il y avait déjà les halot. Bien sûr que la hala, c'est je te dis que tu vas éclater. Alors, maintenant, le résultat. Le résultat, c'est que si elle est, effectivement, si elle était adultère, alors a priori, elle va mourir de cette manière-là. Et sinon, elle va avoir une bracha. C'est-à-dire que si elle n'avait pas d'enfants, elle va en avoir. Si elle avait des garçons, elle voulait des filles, elle aura des filles. Si elle avait des filles, elle voulait des garçons, elle aura ce qu'elle veut du point de vue de ses enfants.
Si elle a déjà tout.
Pardon?
Si une femme qui a déjà des enfants,
Un
elle a déjà
tout,
tout.
alors elle aura, je crois que,
C'est le choix
je crois pas qu'il y
restreint.
aura quelque chose de plus.
Donc c'est une bracha limitée, quoi. Elle
Non,
aurait
elle aura
une
d'autres
distance.
enfants.
Ah, d'autres enfants.
Et voilà. Et donc, maintenant, la suite, c'est que si, effectivement, elle est innocente, alors ça veut dire que la Torah dit, vous pouvez continuer votre couple. Bon. Et lui, il a l'interdit de divorcer, de prendre l'initiative de divorcer. Elle, après ça, si elle veut, elle peut divorcer. Mais lui, il n'a jamais le droit de prendre l'initiative de divorcer. Il est coincé. Il a demandé une ordalie, il a demandé qu'Hachem lui dise, est-ce que je continue avec mon couple ou pas? Bon, après, tu vas plus maintenant, je t'ai dit oui. Et alors, le grand problème, si vous voulez, c'est que la Gemara, elle introduit quelque chose qui n'est pas marqué ici du tout. Mais la Gemara, elle dit qu'il y a une notion qui s'appelle Zechut Tolé. Le mérite est suspensif. C'est-à-dire que la femme en question, elle peut avoir un mérite qui va faire que, même si elle est adultère, elle ne va pas mourir, ou en tout cas pas tout de suite, et pas de façon. Peut-être elle mourra finalement à la fin dans son grand âge, aussi par quelque chose qui aura à voir avec le ventre, etc., mais elle ne va pas éclater, etc. Mais bon, c'est suspensif, le shrout. Donc, il y a cette notion. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est une marloquette dans la Gemara. Et d'après celui qui dit qu'il y a un shrout, alors la Gemara, elle demande, mais quel shrout? Et là, la Gemara, elle fait un raisonnement standard pour dire que pour que il y ait un effet suspensif à quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans la Torah, pour un shrout gigantesque. C'est quoi le shroud gigantesque? C'est le même raisonnement que le roi Hiskiaou a fait. Donc, ils ont gagné la guerre en allant dormir. Je dis, comment c'est possible que Klal Yisrael gagne une guerre alors que tout le monde dort? C'est qu'il a un scout. Et donc, question, c'est le scout. Agmar dit, il n'y a pas de scout plus important que le scout de l'étude de la Torah. Alors, il dit très bien, mais les femmes, elles n'ont pas d'obligation d'étudier la Torah. Alors, la Gemara, elle dit, le fait que la femme, elle attende son mari et ses enfants, elle leur prépare à manger pour quand ils vont rentrer de leur étude, c'est la même chose que le scout de l'étude de la Torah. Et c'est ça, son scout. Ça veut dire, il faut penser, faut arriver à penser ensemble, une femme qui adultère et qui apprécie la Torah au point de rester tard le soir pour recevoir son mari et ses enfants qui reviennent de l'étude, elle a les deux en elle, quoi. Elle est adultère et elle a cette appréciation de la Torah, valorisation de la Torah. Et si tu dis que Srout est tollé, tu dis que ça existe, cette histoire, alors ça veut dire qu'on peut avoir les deux choses en même temps. Alors en général, quand on étudie ça dans un certain état, on essaie de se représenter situation. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette femme pour qu'elle puisse être à la fois adultère et à ce point présenté comme une grande chose. Aujourd'hui, beaucoup de femmes qui le font, mais qui attendent leur mari ou qui aident les maris à étudier. En tout cas, c'est présenté dans la Gemara comme quelque chose d'assez exceptionnel. Au point qu'on va dire que cette attente-là, elle est équivalente à l'étude de la Torah. C'est pas qu'on dit ça marche aussi. C'est comme ça, c'est ce qu'on Torah. Ça s'appelle le scout, c'est le mérite qu'on a quand on étudie. Et puis quand le problème, c'est d'une certaine façon, c'est possible que on n'a pas d'obligation d'étudier la Torah. On a une obligation de veiller à ce que la Torah soit diffusée en grand. Alors, si tu es capable d'étudier, alors c'est toi. Mais si toi, tu n'es pas capable et que tu permets à quelqu'un d'autre d'étudier, c'est la même chose. Parce que la Torah, elle ne dit pas que toi, tu dois étudier. Elle dit, toi, tu es en charge de faire rayonner la Torah. La Torah, c'est ton affaire. Quand quelqu'un il a une affaire, il ne fait pas tout le boulot. Si quelqu'un il a une usine de je sais pas quoi, de fabrication de chaussures ou de voitures, il n'est pas mécanicien, mais peut-être il est simplement, c'est lui qui fait en sorte que des gens fassent le travail pour lui, quoi. Donc faire le travail, ben, bon, et donc il faut penser, cette femme, je sais pas, peut-être que vous avez une idée, quelqu'un des idées éventuellement, sur cette capacité de à la fois d'être adultère et d'avoir cette appréciation de la Torah, de l'imout de la Torah, y compris de ce mari qu'elle trompe.
Peut-être que c'est un mari qui s'occupe pas de sa femme, qui s'en délaisse et puis il va chercher ailleurs. Comme ça,
Oui, non, c'est bon,
ça.
la réponse. Arriver, d'accord, je s'occupe pas d'elle, donc il faut qu'elle ait une adultère, c'est normal.
C'est pas
C'est
bon.
pas. C'est pas si.
Elle est dans une situation indélicate, ce qui fait qu'elle doit être adultère pour pas payer des traites, ce genre de choses.
Non, ça, je pense pas que c'est. Je ne crois pas que ça. Si tu vas du côté d'un quasiment honnête, c'est-à-dire contrainte. Bon, peut-être que l'adultère lui-même, il est peut-être à nous ça, alors du coup, c'est plus un adultère. Non, ça va probablement dans le sens de ce que tu dis. Ça veut dire que on a l'impression que elle apprécie énormément, mais lui donne rien de cette étude. Elle l'apprécie, elle comprend que, mais ça lui donne rien du tout, et peut-être que du coup, il n'est pas à la maison, et quand il rentre, il raconte rien, il lui donne rien du tout. Alors elle est à chercher, donc elle va chercher ailleurs ce qu'il ne lui donne pas. Bon, c'est assez énorme. Mais bon, la Torah, elle envisage, la Gemara, elle envisage ça, quoi. Cette histoire de Zechout Tolé, c'est ça que ça veut dire.
J'ai aussi une question par rapport au fait qu'il n'y a pas de chiyuv étudié à la Torah. Comment on explique le verset Yigata Yigata. Comment est-ce qu'on arrive à...
C'est-à-dire, il faut le faire, il faut s'en occuper jour et nuit. Alors, Vegata Bo Yom, ça veut dire, si tu considères qu'effectivement, toi, tu peux étudier, alors tu dois étudier jour et nuit. Sinon, tu dois payer les gens ou aider les gens à étudier jour et nuit. La Torah, elle a pas, y a pas un moment où on est libre, enfin, où on n'est pas astreint à s'occuper de Torah.
L'idée est un peu dangereuse parce que les hommes pourraient dire, ben moi, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas les
Non,
capacités.
mais ça, on n'a
On
pas.
se cache derrière et puis...
Le problème, c'est même pas tellement dangereux.
Voilà.
Si quelqu'un, pour ça, il prend vraiment à cœur de permettre à quelqu'un d'étudier, c'est un full-time job aussi.
Mais lui, c'est exemple de la chose. Il savent.
Non, mais
C'est vrai qu'il
on ne dit pas que quelqu'un peut s'exempter. On dit que si quelqu'un n'est pas capable de le faire, il y a des gens qui n'ont pas de tête. Ouais. Ils n'ont pas de tête. Ça existe, des gens qui n'ont pas de tête.
On parle pas des gens qui veulent pas. Ils veulent pas
Non, on
d'être
ne parle pas de
là.
quelqu'un qui ne veut pas, parce que s'il ne veut pas, il est mezalzel la Torah.
J'intéresse pas.
Ouais, alors, ça, tu dis que c'est, ça, si la
C'est
Torah peut ne
intéressant.
pas être intéressante,
Oui.
d'abord, c'est difficile dans ce cas-là de s'imaginer que cette même personne, elle va payer quelqu'un qui va étudier pour lui, enfin, pas pour lui d'ailleurs. C'est vraiment pas intéressant. On va payer un parasite pour.
Non, non.
Pour savoir qu'il faut diffuser la Torah, ça veut dire qu'il faut l'avoir étudiée, savoir qu'il faut la diffuser.
Non,
S'il n'y a
c'est
pas
pas
de...
sûr, c'est pas sûr. Non, c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui a aucune idée de la Torah. C'est quelqu'un qui est allé à la yeshiva, disons, mais bon, il n'a pas de. Ça ne lui parle pas. Il y a plein de gens comme ça. Alors, il y a des gens qui sont coincés, ils ne peuvent rien faire d'autre, parce qu'ils sont dans une société dans laquelle c'est ça qu'il faut faire. Alors, ils le font pour pas bien, évidemment. Alors, quand on regarde dans la Gemara, dans Sota, ce qui se passe, c'est que la Massechet, elle ne parle pas que de ça. Elle parle beaucoup, beaucoup des problèmes de la parole de Torah, de la parole des Brachot, de comment est-ce qu'on fait une bracha à deux, comment on répond dans le Beth Amikdash, on répond d'une certaine manière, en dehors du Beth Amikdash, on dépend. Il y a les choses qu'on peut dire dans n'importe quelle langue, les choses qu'on peut dire. Donc elle parle énormément, énormément de la parole de Torah, quelque part. Et on a l'impression que dans cette paracha de la Sota, le grand problème, c'est qu'on efface le nom d'Hachem. Le problème, ce n'est pas tellement le problème de l'adultère. Parce que, en fait, là aussi, il y a un autre problème, qui est que, est-ce qu'une femme, que son mari a obligé d'en passer par là, alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Passer par cette épreuve dégradante, etc. Est-ce que cette femme, en fin de course, quand elle a prouvé qu'elle était une kia complète, etc., est-ce qu'elle a vraiment envie de continuer avec son mari? J'aurais dit non, mais en fait, il faut réfléchir que la situation d'une femme divorcée est une... Aujourd'hui, la situation d'une femme divorcée n'est pas aussi insupportable qu'elle l'était il n'y a pas encore si longtemps, parce que les femmes peuvent travailler. Mais avant, quand une femme ne pouvait pas travailler, personne n'a... Les femmes, elles sortaient pas de chez elles et elles ne pouvaient pas vraiment travailler. Donc, une femme qui était divorcée, si elle n'avait pas de l'argent, si elle n'avait pas un parent, un père chez lequel elle pouvait retourner, elle était vraiment mal en point. Et donc, c'est possible. Il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de couples qui n'ont pas divorcé parce que pas envisagé d'être toute seule. Donc, le couple n'existait probablement plus du tout, mais elle était encore là. Éventuellement, il y a des enfants qui ont été conçus, il y a toutes sortes de choses qui se sont faites parce que pas où aller. Donc, c'est possible qu'elle veuille continuer avec lui pour ces raisons-là. Autrement, je n'ai pas, même pas reçu de vraies réponses des femmes. Qu'est-ce qu'elles pensent vraiment? Est-ce que vraiment, si ce n'est pas pour des raisons économiques, pourquoi rester avec quelqu'un qui vous impose une trajectoire comme celle-là?
Il y a des raisons sociales aussi. La femme ne veut pas. Autre qu'économique, c'est bien d'être mariée et d'être dans l'environnement qu'elle a
Oui, mais
officiellement.
d'accord, c'est vrai que l'agmara dit que c'est mieux d'être marié plutôt que d'être non marié. Mais que la femme, elle préfère ce statut-là. Mais là, c'est un peu compliqué, je veux dire. Bon, il ne va pas le faire deux fois parce que la femme ne peut pas voir deux fois, mais.
Le faire de passe.
Non, l'agmara, elle discute si on peut faire deux fois. A priori, on ne peut pas le faire deux fois.
Là aussi, c'est dangereux parce que si la
Serait...
première fois elle est innocente, mais la deuxième fois elle devient après moi adultère,
Mais
c'est un
s'il...
problème.
Mais
Donc,
si... Ok, alors,
ben
si, tu...
non.
si lui, il a vraiment... S'il a un doute, ben... Si tu veux pas vivre avec ce doute-là,
Mais il pourra pas
ben,
les faire.
divorce.
S'il a un doute la deuxième fois, il ne peut pas déclencher la
Ah, il
procédure.
pourra pas, lui, il pourra plus divorcer à ce
Il ne peut
moment-là.
pas déclencher la
Il
procédure.
déclenche, il peut pas.
Ouais,
Bon, la vérité, c'est que avec ce tollé, ça veut dire que... Et puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que si le bonhomme lui-même, il n'a pas une conduite tellement irréprochable dans ce domaine, par exemple, il a des rapports avec des femmes mariées, lui, de son côté, ça marche pas du tout. C'est-à-dire, le résultat sera qu'elle est permise, mais même si elle est adultère. Parce que ça va rien lui faire si lui, il n'est pas à l'auteur. Donc, ça veut dire qu'une femme peut très bien rester mariée, c'est ce qu'on a dit, mais la shamaïm peut continuer, alors qu'elle, elle sait qu'elle est adultère, et elle est mariée avec un type qui ne peut pas divorcer. Alors, elle, si elle veut, elle peut divorcer, mais lui, pas. Donc, c'est un gros morceau de. Le fait de pouvoir effacer le nom d'Hachem, c'est un recette qu'Hachem fait au monde, d'accepter qu'on efface son nom pour sauver un couple qui au moins il bat de l'aile, ce couple.
Oui, peut-être pas divorcé. On m'a mis la Torah, c'est l'homme qui divorce, pas la
Oui,
femme.
mais elle, on,
C'est le
je veux
bébé.
dire,
Ouais.
elle peut créer des situations où il va devoir divorcer.
Pardon?
Dans le cas de Meddine. Ouais, non, il y a des choses, elle pourra, si elle dit qu'il me dégoûte ou je sais pas, ou des choses comme ça, elle va pouvoir. Le tribunal va l'obliger à divorcer.
Même si, contre son gré, même s'il ne veut pas.
Donc ça, c'est une paracha. Juste après, il y a de nouveau un problème de parole. Parce que vous voyez, toute cette affaire-là, elle a commencé parce que le mari, il a parlé. Il lui a dit, je t'interdis de t'isoler. Bon, si toutes les, s'il y avait eu isolement, etc., il y avait cette procédure-là. Toute cette procédure-là n'existe pas. La procédure, elle est mise en marche par deux conditions. Il y a lui qui l'a, qui devant témoin lui interdit, etc. Donc, il la met mal à l'aise, en fait. Puis il y a elle qui, effectivement, au lieu de se tenir à carreau, le cas échéant, elle dit, ben, moi, je vais m'isoler. Il ne passera rien. Je vais m'isoler.
Il y a deux témoins aussi qui l'ont vu s'isoler.
Deux témoins
Ça
qui.
doit être les mêmes qui l'ont vu interdire ou ça peut être deux autres
Oui, ça
témoins?
peut être les mêmes. Donc, c'est un problème qui naît d'une parole, peu malencontreuse, mais une parole. Parce que c'est aussi compliqué. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'Hachem te dise que tu dois continuer avec ta femme? T'as envie de continuer, ben continue. T'as pas envie. En vérité, un homme, il peut divorcer. T'as pas envie, mais continue pas. Qu'est-ce que t'as. Ben, tu vas déranger en quelque sorte Hachem si on peut parler comme ça.
Le problème, c'est pas ça, c'est que si elle est vraiment adultère, il pas
S'il
si elle
est.
est adultère, il n'a pas envie de vivre avec elle. Je
Mais
comprends.
non, mais s'il n'a pas envie, alors qu'il a fait divorcer.
Mais c'est pas de son fait, c'est à cause d'elle.
Oui,
Si
mais d'accord, il a divorcé parce qu'elle est adultère. Il faut le montrer qu'elle est adultère. On ne peut pas accuser quelqu'un. Elle n'est pas adultère juridiquement tant qu'il n'y a pas eu des témoins.
Parce que le problème, c'est que via cette procédure, si elle a le terme, elle a la clala, donc
Oui, mais là, comme elle a, et ça n'assurera
ça
rien du tout parce que à tout moment, elle peut dire je descends du train. Donc simplement, là, du coup, il va devoir divorcer. Il peut pas.
aura humilié, peut-être qu'il aura pas humilié sa
Tout
femme,
ce qu'il aura.
peut-être. Il
Non, mais elle
aura
aura du tout.
humilié, là.
Pas du tout.
La procédure.
Elle, mais elle, au tout début, elle peut dire je commence pas la parole.
Ouais, mais si elle s'engage, c'est pas dans la procédure.
Quoi?
Si elle commence la procédure.
Mais pourquoi elle commencerait si elle sait qu'elle est adultère et que ça va mal se passer, elle sait que elle va devoir subir ça. Pourquoi? Bah, plutôt. De toute manière, on va devoir divorcer, alors tant que, au revoir. Non, il y a la paracha d'après, la paracha du Nazir. Au début du chapitre 6, donc, Ish o Isha, Yafli Lindor Neder Nazir, Nazir Lachem. Il y a une notion qui s'appelle Nedarim. Dans la Torah, elle a validé quelque chose d'assez étrange, la possibilité pour quelqu'un de, par exemple, de s'interdire des choses, et puis ensuite, parce qu'il se les est interdits, la Torah va lui demander des comptes s'il ne tient pas compte, si lui-même, il n'est pas cohérent avec cet interdit. C'est-à-dire, si quelqu'un a décidé qu'il ne mangerait plus, il mangera plus les pommes vertes, il fait un éder, il y a une formule dans laquelle il dit voilà, je m'interdis de manger des pommes, Donc, je fais un vœu de ne plus manger des pommes vertes. Alors, un jour, pour une raison ou une autre, il veut manger des pommes vertes. Alors, il pourrait se dire, c'est moi qui ai inventé l'interdit, je peux le permettre, je change d'avis. Il ne peut pas. S'il a fait les choses sous forme d'un vœu, d'un néder, il ne peut pas. Il est bloqué. Et s'il transgresse, la Torah va lui demander les comptes, exactement comme si, au lieu de manger les pommes vertes, et comme si, sans vœu, il avait mangé, je ne sais pas, un verre de porc. C'est la même chose, la Torah lui demande. C'est la Torah qui lui demande des comptes. Pour un interdit qu'il a lui-même inventé. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose dans la mesure où il y a une possibilité d'annuler éventuellement ce vœu et de lui permettre de manger ses pommes vertes. Et pour ça, il faut qu'il aille au tribunal, qu'il prenne trois personnes, tribunal, ou un expert, et qu'il lui explique pourquoi il ne veut pas continuer le Neder, parce que quand il s'est engagé, il n'a pas pensé qu'il arriverait à cette situation où, pour faire plaisir à sa belle-mère ou je sais pas quoi, il est obligé de manger des pommes vertes. Et alors le tribunal va lui dire, Moutar lecha, c'est permis. Voilà, on annule. À partir de maintenant, le vœu est annulé. Il peut manger des pommes vertes. Mais il faut qu'il ait une bonne raison. Pardon?
Sur quel critère
Il suffit qu'ils disent, si j'avais su ça, je ne serais pas engagé.
il
Ça peut être tout à fait vrai, d'ailleurs. Il n'a pas pensé qu'un jour, découvrirait que c'est très très bon pour la santé ou pour les relations, je sais pas, avec le voisin du dessus, de manger des pommes vertes. Et dans tout l'éventail des choses qu'on peut s'imposer par vœu, donc par la parole humaine, quoi, la parole humaine qui, à la Torah, met quasiment à la même hauteur que la parole divine. C'est ça le truc de énormément, le truc qui est extrêmement surprenant, quoi.
C'est la Meloukine.
Hein?
C'est la Meloukine, non?
Oui, c'est le Melokim, mais d'accord. On n'est pas comme Melokim quand même, je veux dire. Alors, il y a un type de vœu qui s'appelle Nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui s'engage, s'il ne dit pas pour combien de temps, alors c'est pour 30 jours, il s'engage à devenir nazir. C'est un statut. Il dit, je prends pour 30 jours ou pour 10 jours ou pour 50 jours, on peut faire comme on veut, le statut de nazir. Et étant nazir, alors voilà les obligations que j'ai. N'aurais pas le droit de boire du vin ni de toucher à toute la sphère du raisin, quoi, qui touche à ça. N'aurais pas le droit de me rendre impur. N'aurais pas entré dans un cimetière, etc. C'est par exemple exactement la même chose qu'un Cohen. Et je n'aurais pas le droit de couper mes cheveux pendant cette période. En gros, c'est ça. La Nézirout. Et à la fin de cette procédure, il a un ensemble de korbanot à apporter pour retrouver le statut de Monsieur Tout-le-Monde. Pendant un certain temps, tu t'es mis au-dessus de tout le monde. C'est ça le grand problème des vœux. C'est que certains critiquent énormément les gens qui font des vœux, Parce qu'ils disent, quoi, les 613 mitzvot, ça ne suffit pas. Il a besoin d'inventer encore des trucs, contraintes supplémentaires.
Je crois qu'il y a aussi une notion de côté, il y en a qui appellent ça.
Oui. Alors, ça, c'est quand quelqu'un, justement, le nazir, lui-même, comme il s'interdit de boire du vin, donc il se fait souffrir. Et quelqu'un qui se fait souffrir, il est frotté. Fait une faute. Il est appelé frotté.
S'il n'aime pas le vin, s'il n'aime pas le vin,
Pardon?
s'il n'aime pas le vin,
Très bien.
eh ben, il n'est pas roté pour cela, pour autant.
Voilà.
S'il n'aime pas le vin, il est en horreur.
Oui, mais bon.
Du coup, il se prive aussi
Bon,
de mitzvot.
premièrement, la Torah, elle ne parle pas des cas exceptionnels. Quelqu'un n'aime ni le vin, ni le jus de raisin, ni un truc un tout petit peu vineux, etc. Il veut pas, disons, il n'a pas le droit d'utiliser l'huile de pépins de raisin. Enfin, oui, il y avait plein de trucs, quoi. C'est un peu beaucoup. Et donc là aussi, on a affaire à quelqu'un qui, c'est une parole qui a un impact sur lui-même, a priori. L'histoire de la sota, c'est une parole qui a un impact sur quelqu'un d'autre, quelqu'un de proche de lui, c'est-à-dire sa femme. Et puis, il y a, après ça, hein, il y a ce qu'on appelle Birkat Kohanim. C'est-à-dire, si vous allez au chapitre 20, mais au verset 22, Daber el Aaron, ben banav les morts, kot vankou, ainsi vous bénirez les bnei Israël. Eh bien, si vous regardez le dernier verset du chapitre, c'est un verset qui dit, où Hachem dit, voilà, Birkat Kohanim, c'est-à-dire les Kohanim, ils ont fait leur bénédiction, etc. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Le Samu et Shemi al Bnei Israël va ni avarchem. Ça veut dire, les Kohanim, ils ont posé le nom d'Hachem sur les Bnei Israël, et Hachem dit, c'est moi qui vais bénir. Donc, d'après cette lecture, qui est la première lecture dans Rashi, vous regardez Rashi, Rashi dit, le Samu et Shemi, Yevarchum Beshem Amforash, ils vont les bénir en utilisant le Shem, le vrai Shem Hashem, au Beth Amikdash. Ve'ani avarchem, et alors il y a deux lectures ici dans Rashi. Rashi dit, Ani avarchem le Israël, ve'askim imakwanim, c'est moi qui bénirai les Bnei Israël, et je serai d'accord avec les Kohanim. Les Kohanim ont dit des choses, Yivarcha Hashem, etc. Et moi, je suis d'accord. C'est-à-dire, c'est moi qui vais vraiment faire la bénédiction. Et puis, il y a une autre lecture dans Rashi qui dit d'avoir acher, Vani avarchem la Kohanim. C'est-à-dire, Hachem dit, les Kohanim, ils ont béni le clan d'Israël, et moi, je bénirai les Kohanim. Deux lectures possibles. Donc ici, c'est une parole, la parole des Kohanim, qui est une parole on peut presque dire qu'il partage avec Hachem, en quelque sorte. Hachem va dire la même chose que Ani Askim Kohanim. Je vais être d'accord avec les Kohanim. Ce qu'ils ont dit, moi, je dirai la même chose. Donc cette fois-ci, on a donc vu une parole qui a un impact pour quelqu'un d'autre, la femme, une parole qui a un impact sur lui-même, dans le nazir, et une parole qui a un impact dans la mesure où c'est une parole qui est suffisamment haute pour qu'Hachem la reprenne aussi à son compte, quelque part, ou que parce qu'eux ont fait quelque chose, alors ça induit qu'Hachem va lui aussi faire la même chose. Ils vont bénéficier de la bénédiction d'Hachem, les Kohanim, parce qu'eux ont béni le clan d'Israël. Espèce de récompense, puisque vous avez fait ce travail, alors je vais, moi, vous bénir à mon tour.
D'être béni par Hachem, c'est quand même pas la même chose que d'être béni par des hommes. Pas le même niveau.
Oui, non, bien sûr, mais
Les
oui, mais
Kohanim.
le problème, c'est que les hommes qui bénissent, en fait, ils ne bénissent pas de leur propre initiative. Ils font une bracha, Hachem Kidshanu de mitzvotav, de traiter les Bnei Israël avec Ahava, leur amour. Donc, si on veut, c'est prescrit. Et les paroles sont prescrites. Ce n'est pas eux qui inventent les paroles. Les paroles en question, c'est des paroles qui sont prescrites par Hachem. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est vraiment une bénédiction où on demande la bénédiction d'Hachem. Parce que quand tu dis Yevalcha Hachem Vishmerecha, que Hachem te bénisse et te garde, tu demandes à Hachem de faire les choses.
Mais c'est quand même pas la même chose de recevoir d'un autre que de la chaîne.
Oui,
Ce qui est
non,
important, c'est la
personne
source.
ne dit que c'est la même chose. Au contraire, on peut peut-être penser qu'Hachem va les bénir eux, et c'est encore plus que ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, et donc ils se sont qualifiés pour recevoir une bénédiction d'Hachem. C'est-à-dire, souvent, ce qu'on fait a un impact aussi sur nous qui nous dépasse complètement. Donc, ils ont un impact en bénissant le clan d'Israël. Ils ont fait quelque chose qu'Hachem considère, on pourrait dire comme ça, suffisamment important pour que Hachem les bénisse eux.
Quand vous aussi les Kohanim,
Oui, les
c'est les
Kohanim.
Kohanim.
Dans la deuxième chatte, c'est les Kohanim.
Quand lorsque les Kohanim bénissent les Bénis Israël, donc vous dites
Sont
pas,
devenus bénis par Hachem.
oui,
Ça veut dire qu'ils font quelque chose qui les dépasse tellement, parce que
mais
c'est
les
presque un
Kohanim.
privilège de pouvoir bénir le clan d'Israël.
C'est aussi un privilège d'être béni par Hachem en direct.
Et du
Et ça,
coup,
c'est
oui.
enviable. L'Israël, ça.
Non,
C'est.
mais
Non, mais je sais, ça crée des différences.
bien sûr que ce n'est pas la même chose, parce que
Qui est-ce
ce que
qui.
les Kohanim ont fait, ils ont appelé la bénédiction d'Hachem sur les Bnei Israël.
Mais
Alors Hachem dit,
il n'y a
vous
que
allez
des
l'avoir sur
différences.
vous.
Il n'y a que des différences. Ce sont
Mais
des
alors,
trois machanot,
mais
trois.
béni par Hachem, c'est comme d'un niveau
Oui, non,
plus haut que.
même si, disons qu'on te suive,
Que
ça te
par.
dérange?
Comment?
Ça ne dérange pas. Hachem dit, vous avez fait quelque chose de tellement grand que vous méritez que je vous bénisse directement.
Ils ont beaucoup
C'est pas
d'interdits.
que, c'est pas que.
Comment on sort un cadeau? On sort un cadeau de quelqu'un qu'on estime, peut-être qu'on n'estime pas. La source est quand même importante. Où est-ce que je veux dire?
Non, mais bien sûr que.
La notion.
Mais eux, ils peuvent pas faire, ils peuvent pas, eux, les Kohanim, ils peuvent pas donner la bénédiction d'Hachem. Ils peuvent appeler la bénédiction d'Hachem sur. Ils peuvent pas, ils n'en sont pas.
Oui, mais les Béni Israël, ils se sont un peu.
Ouais, ça veut dire que les Bnei Israël
Ils n'auront jamais la bénédiction de la chaîne.
bénéficient de la bracha qu'Hachem a dit aux Kohanim de leur donner. Bon, qu'on dise Asher Kidshanu b'mitzvotav. Hachem nous a donné une mitzvah, enfin des mitzvot, et en particulier la mitzvah de bénir le clan d'Israël. Ils font le travail qu'Hachem leur a demandé de faire. La avoda, c'est comme ça aussi, hein. La avoda, les Kohanim qui font la avoda, qui font la shrita, la zrikat Adam, etc., ils font ce qu'Hachem a ordonné de faire. Je comprends très bien cette idée de considérer qu'ils en reçoivent peut-être plus que ce qu'ils ont donné, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas que les Kohanim en reçoivent plus, puisque, à la limite, je dirais, c'est normal qu'Hachem leur donne la force pour pouvoir faire ce travail extrêmement dangereux et peut-être et presque impensable. Servir Hachem, ça veut dire quoi? Servir Hachem, c'est quand même servir Hachem qui a besoin de rien, et auquel on ne peut rien donner. Et tu vas lui faire un service de quoi? Il y a un paradoxe qui est que dans la Torah, dans la Gemara, on demande les Kohanim, quand ils fonctionnent, ils sont les envoyés. Mais la Gemara, elle demande, ils sont les envoyés de qui? Est-ce qu'ils sont les envoyés d'Hachem ou est-ce qu'ils ont envoyé des hommes? Et la Maskana, elle est qu'ils sont les envoyés d'Hachem. Alors ça devient paradoxal. Ça veut dire que c'est Hachem qui fait lui-même sa propre avoda, par le biais de gens qu'il a chargés de le faire, mais donc c'est un circuit fermé, quoi. Hachem, il se sert par des gens auxquels il a donné l'ordre de le servir. Nous aussi, c'est comme ça. Mais chez les Kohanim, c'est pas tant. Chez nous, on a reçu l'ordre de servir Hachem, mais eux, ils ont reçu l'ordre d'être les représentants d'Hachem pour servir Hachem. Donc c'est comme si Hachem mettait de la poche droite dans la poche gauche. Puisque ceux qui font les shlucho donc quand les Kohanim agissent, c'est comme si Hachem agissait lui-même. Donc il agit lui-même pour se
Oui.
pour se servir, quoi.
Oui, ça fait participer les hommes. Ça a un intérêt ou un impact sur les hommes.
Non, mais
Ce
je ne suis pas en
système-là.
train de dire que ça n'a aucun intérêt. Je suis en train de dire que c'est paradoxal de voir que justement on demande aux hommes, d'une certaine manière, de s'annuler complètement, puisque pour être shaliach d'Hachem, il faut, au moment où je fais ce travail-là, je ne suis plus moi-même. Je suis l'envoyé d'Hachem. Je suis l'envoyé d'Hachem pour servir Hachem. C'est les Kohanim. Mais c'est tout le paradoxe du service d'Hachem dans la mesure où tout ce que nous pouvons donner à Hachem, c'est lui qui nous l'a préalablement donné. On ne donne jamais rien à Hachem. D'abord parce qu'il a besoin de rien et qu'on ne peut rien lui donner. Mais en plus, c'est que nous n'avons rien qui ne serait pas à lui déjà pour le lui donner. Mais Hachem veut que ça passe par les hommes. La situation où on voit combien Hachem veut que ça passe par les hommes, c'est le cas du Bechor, de Bechor animal. Quand vous avez tous certainement une brebis à la maison, le jour où la brebis, elle met bas pour la première fois, l'agneau en question, c'est un Bechor. Les Bechor, c'est un Corban, on doit l'apporter comme Corban Bechor. Maintenant, toutes les autres choses, tous les autres korbanot qu'on amène sont toujours la résultante de ce qu'on appelle kedushat peh. C'est toujours ma bouche qui a déclaré que ces choses-là avaient de la kedusha. Donc, aucun korban, le seul korban qui ne vient pas de ma bouche, c'est lui, c'est le bechor. Parce que lui, il est né tout seul, je ne peux rien. Et les Chazal disent, tu dois te tenir à côté de ta brebis, et quand elle met bas, tu dois dire, Arezé Bechor. Si tu ne le dis pas, elle est Bechor quand même. Donc on voit que Hachem veut qu'il n'y ait pas même celui-là, quelque part, même si ça ne sert à rien, on veut que ça apparaisse un petit peu. Comme là aussi, c'est que du chat paix.
Il est comme un autre de cibourg obligatoire.
Pardon?
Il est comme un autre de cibourg obligatoire.
Il faut quelqu'un, il
Mais
faut quelqu'un qui. La bête elle-même,
la guinée.
il faut qu'elle soit
La
désignée
guinée.
par
Mais
quelqu'un, par le propriétaire.
oui.
Ou Ekdesh, ou le gestionnaire de Ekdesh.
Oui.
Dans la réserve des troupeaux qui sont là
Oui.
pour. etc., qui a la, qui est le propriétaire, enfin, qui est le gestionnaire de ces troupeaux, c'est le trésorier de Beth-Amikdash. Et lui, il va dire, ceci, c'est pour le corban de Shabbat. Ça, c'est pour le corban de Shavuot. Voilà, on s'arrête là.
Merci, Raph.